Croix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Nous sommes le lundi 21 janvier, je suis Olivier Delacroix. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h, c'est bien ça Ombline?
Oui, c'est exactement ça. Bonjour Olivier, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien,
le
merci.
Le week-end a été bon?
Excellent, le vôtre?
Et très bien, et le lundi est ensoleillé, voilà. Et j'adore. Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité. Ils sont toujours à fleur de peau et ils vivent intensément les émotions, les leurs, mais aussi celles des autres. Une musique peut les rendre profondément mélancoliques, par exemple. Ce sont les hypersensibles et ils représenteraient 15 à 20% de la population. Un trait de caractère qui n'est pas considéré comme une pathologie et qui est donc très difficile à déceler. L'hypersensibilité est aussi belle qu'invivable pour ceux qui en sont atteints. Comment apprendre à gérer ses émotions? Comment ne pas analyser la moindre situation et être moins sensible aux critiques? Comment distinguer une sensibilité accrue de l'hypersensibilité? L'hypersensibilité, comment bien la vivre? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
On vous écoute au 39-21, le standard d'Europe 1 est ouvert. N'hésitez pas à composer ce numéro que vous connaissez, 39-21, 50 centimes la minute. Twitter pour nous écrire hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Anne-Lise sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, soyez la bienvenue Anne-Lise.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 42 ans et j'appelle de Chasselet, près de Lyon.
D'accord. Alors Anne-Lise, vous dites que vous avez une perception différente des choses. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Oui. J'ai pris conscience en fait assez récemment, il y a pas plus de 2 ans, que je ressentais très fortement les émotions des gens, mais aussi quand je les touchais, que j'allais ressentir les douleurs à l'endroit où ils en avaient,
oui,
et également leurs émotions, sans même qu'ils les exprimaient auparavant. Et en ayant une éducation très cartésienne, c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps avant de comprendre vraiment que c'était réel et qu'à chaque fois, je pouvais vérifier par ce que me disaient les personnes que ces ressentis que j'avais correspondaient à des douleurs ou à des émotions réelles, mmh, sans que je puisse expliquer pourquoi j'avais ce ressenti.
Est-ce que vous vous êtes toujours sentie différente ou c'est quelque chose que vous avez découvert au fur et à mesure?
Je pense que je me suis toujours sentie différente, sauf que je le formalisais pas comme ça. C'est-à-dire, mmh, que je pouvais très mal vivre certaines situations qui, pour mon entourage, n'étaient pas si difficiles que ça. Parfois, ça pouvait être des moqueries de la part de l'entourage ou d'amis, une incompréhension de mon côté, mais aussi du leur. Clairement, je l'ai toujours été, mais avant que je comprenne que ce soit vraiment très exacerbé, je pense qu'il m'a fallu 40 ans de vie, de parcours et de moments difficiles pour intégrer et remettre toutes les pièces du puzzle en place, on va dire.
Alors, on parlera aussi, à la suite de ce que vous venez de me dire, d'accepter cette hypersensibilité, mais on en parlera un petit peu plus tard. Avant ça, est-ce que vous avez été parfois traité de personnes trop fragiles, trop sensibles et avoir fini par penser que les autres portaient un regard comme ça sur vous et que c'était un peu vrai?
Oui, mais je l'entends toujours aujourd'hui. Je crois que ça n'a pas changé. Et je pense que ça ne changera jamais. Les gens ne comprennent pas que l'hypersensibilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est presque un handicap. Alors l'acceptation, on en parlera après, comme vous le dites. Mais
pourquoi un handicap? Un handicap au niveau du temps, par exemple, le temps qu'on y passe?
C'est vrai que le temps, je ne pense pas spécialement à cette notion-là. Un handicap parce que la société n'est pas faite pour ça, le monde du travail n'est pas adapté à ça. Les parents ne savent pas ce que c'est forcément que l'hypersensibilité. Donc quand on a un enfant hypersensible, si on ne sait pas ce que c'est, on ne va pas en tenir compte pour l'éduquer. Si on a un enfant autiste ou qui a un handicap, on va le savoir maintenant, ouais, c'est connu. Mmh. Donc on va en tenir compte, on va chercher à avoir une prise en charge adaptée, adapter son comportement aussi. Mmh. Alors que,
et justement, vos parents étaient comment de caractère? Ils étaient plutôt pas du tout dans l'hypersensibilité, plutôt normaux ou durs?
Ils n'étaient plutôt pas dans l'hypersensibilité. Je pense qu'ils ne comprenaient pas. Mmh. Voilà. Ils ont cherché à comprendre, mais ils ne comprenaient pas. Et de la même manière que, on va dire, l'entourage de manière générale. C'est beaucoup d'incompréhension, ouais, parfois des jugements. Et puis, les gens souvent nous donnent beaucoup de conseils en nous disant, voilà, il faut prendre de la distance, prendre du recul, voir les choses différemment, comme si on en manquait. Sauf qu'en fait, c'est absolument pas un problème de prendre du recul. C'est que quand on ressent les choses puissance 10, l'impact ne va pas être le même et il va falloir le gérer. Voilà. Sauf que ça, on ne nous apprend pas à le gérer.
Et ça se transforme souvent en... Voilà, on devient un peu une infirmière au quotidien. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je pense que c'est la tendance qu'on peut avoir, effectivement, c'est de faire l'infirmière. Après, je me défends de le faire avec des gens qui peuvent être nocifs, on va dire, hein, ce qu'on appelle un peu les personnalités toxiques ou des gens agressifs. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a un niveau d'empathie qui est tel, quand on va ressentir les émotions des autres, qu'on a spontanément envie de leur tendre la main, d'être là pour eux. Et c'est génial. Hein. Moi, je trouve que ça donne sens à ma vie aujourd'hui de me dire que je vais être là pour les autres. Mais la société n'est tellement pas à cette image-là qu'on se sent complètement en décalage.
Et qu'elle l'est de moins en moins, je dirais. Et c'est assez fatigant. On en parlera, hein, savoir si ça, par moments cela vous fatigue aussi, parce que être tout le temps sensible aux autres, c'est aussi quelque chose qui peut fatiguer. Restez en ligne avec nous, hein, nous allons continuer de parler de votre histoire et vous nous direz comment vous avez réussi à faire de votre hypersensibilité aujourd'hui une force.
Europe 1. Comment vivez-vous votre hypersensibilité ? Comment c'est d'être à fleur de peau continuellement ? Une force, une faiblesse ? Vous nous le dites également au 39-21. Vous pouvez aussi nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous sommes toujours en ligne avec Anis qui nous expliquait que son hypersensibilité n'allait pas vraiment dans le sens de cette société d'aujourd'hui. Avant d'aller sur le terrain très personnel, hein, de votre vie personnelle, j'aimerais aborder le côté professionnel, parce que vous êtes rentré dans la vie active et vous ressentiez le besoin de changer de travail tous les 2 ans environ. Pourquoi ?
En fait, je me rendais compte à chaque fois que je vivais ou j'étais témoin d'injustices très importantes que je ne pouvais pas accepter. Oui. Soit quand j'encadrais vis-à-vis de mes équipes, de la part de mes N+2, soit de la part de mes supérieurs hiérarchiques à mon égard ou à l'égard de mes collègues.
Que faites-vous dans la vie ? Que faites-vous ?
Aujourd'hui, je suis praticien bien-être. Je me suis reconvertie, en fait.
D'accord.
Je suis en micro-entreprise. Okay. Voilà.
Mais avant, lorsque donc, vous changez de travail tous les 2 jours, c'était dans quel domaine ?
J'ai travaillé dans le privé tout d'abord, en cabinet de recrutement, en société de prestation de services informatiques. Et après, je suis rentrée dans la fonction publique.
D'accord.
J'ai occupé différents postes au ministère de l'Intérieur, puis au ministère de l'Agriculture.
Et donc, faire les mêmes choses tout le temps, c'était quelque chose qui vous lassait. Et quel est le rapport avec votre hypersensibilité ?
J'ai beaucoup de mal à expliquer le rapport entre
Parce que ça m'interpellait, en fait, ça.
Oui.
Le fait que les hypersensibles ne s'habituent pas à la répétition, hein, des tâches dans le travail, c'est quelque chose qui m'échappait un peu. Mais bon, voilà, si vous voulez qu'on passe à autre chose, hein, si vous ne savez pas...
La question est vraiment intéressante. Je pense qu'il y a un rapport entre la précocité et l'hypersensibilité, puisque je le suis. Je ne sais pas si tous les hypersensibles sont précoces, je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, dans ma vie, c'est ce qui a guidé un petit peu toute mon évolution scolaire et professionnelle. Et quand on comprend les choses et qu'on les ressent, si on n'y trouve plus de satisfaction, intellectuellement, la tâche, de toute façon, on va arriver à faire le tour d'un métier. Et humainement, c'est pareil. Si ça ne nous apporte plus, on a besoin d'autre chose. On a besoin de s'enrichir.
Alors, il y a 3 ans, vous avez divorcé. Vous avez eu un déclic à ce moment-là. Lequel ?
C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, en fait, le fait de ressentir quand je proposais à des amis de faire un massage, le fait de sentir que je pouvais percevoir des émotions par le toucher,
quel rapport avec votre divorce, en fait ? Parce que est-ce que vous y voyez un rapport ?
Oui, je m'étais complètement renfermée pendant 15 ans de divorce. Je voyais beaucoup moins d'amis.
Ouais.
Et finalement... je pense que ça a ouvert des vannes que j'avais fermées temporairement. Mmh. Parce que c'est une période où j'ai vécu pendant ce divorce une période importante de violence psychologique. Et,
ouais. J'ai l'impression,
je me refermais, je pense, sur moi.
J'ai l'impression, en vous écoutant, Anis, que il y a vraiment un moment où vous vous êtes dit que vous étiez vraiment hypersensible. C'est vraiment après ce divorce et après la décision d'aller vers le bien-être dans votre vie professionnelle. À partir de quand vous êtes dit vraiment, vous avez assumé le fait d'être hypersensible ?
Il y a un an.
Il y a un an.
C'est très récent. Mmh.
C'est, ouais, ouais, c'est très récent, ouais. C'est ce que je sentais. Parce qu'on sent que voilà, ça a été longtemps une sorte de tâtonnement pour vous. Et est-ce que dans ce tâtonnement, le regard des autres a vraiment pesé fortement ?
Il a pesé longtemps et un jour je me suis dit voilà, qu'est-ce que j'ai fait le point sur ma vie, ce que j'avais vécu personnellement, professionnellement, et je savais que j'étais plus du tout heureuse comme ça, que ouais. la vie professionnelle en était en très très grande partie la cause, que ça ne venait pas de moi, et j'ai dû tout remettre à plat, qui j'étais, comment je fonctionnais, ce dont j'avais besoin et ce qui me rendait heureuse, et je savais que cette vie ne me rendait pas du tout heureuse. Parce que je vivais quotidiennement dans mon travail, dans mes déplacements dans le Grand Lyon, avec le stress. Voilà, je vivais des choses qui me heurtaient en permanence. Et je me suis dit, je ne veux pas vivre comme ça, sinon ça n'en vaut pas la peine. Mm-hmm. Donc, comme j'avais commencé à avoir ces ressentis assez importants, voilà, au travers de moments assez courts, j'ai suivi une formation en énergétique chinoise pour approfondir ces ressentis par le toucher. Et là, ça a été une vraie révélation parce que j'ai vraiment pu m'ouvrir à un univers qui n'est pas forcément cartésien, donc pas dans mon éducation, où je me rendais compte que je pouvais faire du bien aux gens. Mmh. Et je me suis dit que c'était une évidence, en fait. Un jour, c'est devenu évident et toutes les portes qui étaient ouvertes derrière moi auparavant, j'étais quand même cadre dans la fonction publique, toutes se sont refermées. Parce que je me suis dit, finalement, ça n'a plus de sens. Tous les dysfonctionnements que j'avais pu voir dans mon travail, j'avais évidemment pas forcément toujours la main pour les régler, puisque ça se jouait bien au-dessus. Et je me suis dit, voilà, peut-être que ma place, c'est ça. Et c'est la place que j'avais envie d'avoir dans ma toute petite place dans le monde, c'est de me dire que si je peux aider les gens, je vais le faire parce que ça me rend heureuse et ça leur fait du bien.
Et voilà. Puis, alors, pour aller au bout de cette conversation, parce que je suis un petit peu pipelette, je partage entièrement votre avis, parce que du jour où moi j'ai considéré, parce que je suis hypersensible aussi, hein, je peux vous le dire.
D'accord.
À partir du moment où j'ai accepté cette hypersensibilité, il est vrai que je me suis ouvert à des personnes, comme vous les décrivez, hein, qui sont ouvertes sur des mondes qui ne sont pas obligatoirement cartésiens, mais qui aident, je peux vous dire, un paquet de monde. Et vous en faites partie aujourd'hui. Je vous en félicite et je vous remercie mille fois pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous allons accueillir Nathalie Clobert. Elle est psychologue et auteure de l'ouvrage « Dompter son hypersensibilité ».
Et il y a Nathalie qui nous écrit sur Facebook. « Être hypersensible n'est pas une chose simple. On ressent tellement de choses, des choses que certains ne voient même pas. On est perçus comme des gens fragiles. Vous demandez comment vivre avec ça ? C'est très difficile, c'est épuisant. Ma solution, m'isoler pour ne plus souffrir de ce jugement des autres, de cette incompréhension.
Europe 1.
Vous êtes hypersensible, venez nous raconter votre quotidien au 39-21. Les émotions, les emotions de Brenda Lee qui l'entraînent jusqu'à sa perte. Est-ce que c'est votre cas ? On vous attend au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Nathalie Clobert, psychologue et auteure de l'ouvrage « Dompter son hypersensibilité » aux éditions C'est Malin. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour. Alors ma première question concerne cet état d'hypersensibilité. N'est-on hypersensible ou peut-on le devenir ensuite ?
Alors, la plupart du temps, l'hypersensibilité, c'est quelque chose avec lequel on naît. Hein. On décrit souvent des enfants qui sont plus émotifs, plus sensibles. Mm-hmm. Maintenant, cette hypersensibilité, on peut aussi la développer davantage dans la vie. C'est-à-dire que c'est une rencontre entre les dispositions avec lesquelles on est et en même temps ce qu'on va avoir comme parcours de vie, les différents événements qu'on va rencontrer. Et donc, on peut la développer davantage, soit à travers des expériences qui sont plus négatives, hein, comme des traumatismes, mais aussi à travers des expériences plus positive, qui amène à développer la sensibilité à travers des expériences, le développement du sentiment esthétique, la pratique d'activités artistiques, par exemple. Mmh. Donc il y a deux façons dont l'hypersensibilité peut se développer, mais la plupart du temps, elle est déjà présente.
Et comment peut-on la déceler, cette hypersensibilité ?
Alors, comment est-ce qu'on peut la déceler ? D'abord, on peut peut-être la définir. Alors, l'hypersensibilité, c'est une plus grande sensibilité de manière générale à ce qu'on perçoit, que ce soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur. Et c'est aussi une réponse émotionnelle plus intense. Donc, ce sont des gens qui vont percevoir davantage et qui vont réagir beaucoup plus fortement. hein, tout ce qu'ils perçoivent. Cette hypersensibilité, elle peut être sensorielle, elle peut concerner par exemple toutes les informations des sens, comme les sons, les couleurs, les odeurs, les sensations tactiles, mais elle peut aussi être émotionnelle. Ce sont des personnes très empathiques qui ressentent fortement les émotions des autres et aussi ses propres émotions de manière décuplée.
Mmh. Donc il ne faut
pas voir ces deux éléments-là.
Il ne faut pas voir les hypersensibles comme des gens qui sont proches d'un état dépressif.
Alors non, c'est différent de la dépression, même si il y a une certaine hypersensibilité qui fait partie du tableau de la dépression. Je m'explique. Dans la dépression, on peut être à fleur de peau, sensible, irritable. On est surtout sensible, en fait, aux émotions négatives qui vont être perçues de manière plus importante. Mais au contraire, on va être moins sensible aux émotions positives. C'est ce qu'on appelle l'émoussement. Hein, vous savez, des sensations de plaisir dans la dépression. Les hypersensibles de nature, eux, c'est-à-dire l'hypersensibilité appartient à la personnalité, ils se décrivent comme hypersensibles déjà depuis le début et pas depuis le début de la dépression uniquement, alors que dans la dépression, l'hypersensibilité est récente. Mais en plus, ils sont sensibles autant aux émotions positives qu'aux émotions négatives. Ils peuvent pleurer de joie comme ils peuvent pleurer de tristesse et ces émotions peuvent passer rapidement en fonction de ce qu'ils peuvent percevoir.
Alors, je n'ai pas eu le temps de demander à Annelise tout à l'heure si elle considérait que son hypersensibilité était plutôt une qualité ou un défaut. Vous qui êtes en contact avec des hypersensibles, qu'en pensez-vous en fait ? Est-ce que c'est plutôt une qualité ou est-ce que ça apporte un plus, même si on sait que les hypersensibles vivent plein d'émotions qui peuvent parfois les fatiguer, leur accaparer du temps, mais mieux vaut-il être hypersensible ?
Alors, pour moi, de mon point de vue, oui, résolument. Avec quelques nuances. Donc, je vous explique. Donc, tout d'abord, bien sûr, l'hypersensibilité, ce n'est pas une pathologie. Hein, c'est une caractéristique de la personnalité. Comme vous l'avez rappelé, c'est 15 à 20% de la population environ. Alors, le regard social sur l'hypersensibilité est souvent négatif. Hein, on l'assimile à de la vulnérabilité, donc à un défaut, où on a l'impression que cette hyperexpression des émotions vient traduire une forme de faiblesse, de fragilité, comme si on devait être indifférent, ne pas être touché. Alors, en réalité, ça peut être un grand avantage aussi, puisque ça nous donne accès à des perceptions plus importantes, plus détaillées, une perception plus fine, à plus d'informations, notamment toutes ces informations émotionnelles, tout ce qui passe par les éléments non-verbaux, hein, dont a bien parlé Annelise dans le témoignage, elle parle beaucoup du toucher notamment, vont être des choses qui vont être bien perçues par les hypersensibles. Et ça, ça permet d'avoir quand même beaucoup d'informations, notamment quand on a un travail relationnel complexe, ou tout simplement quand on est en lien avec ses proches. Donc, c'est quelque chose de très important parce que les émotions sont des messages. Mmh. Alors, par contre, il y a quand même un certain travail à faire pour pas être complètement débordé par la sensibilité, par l'hypersensibilité.
Envahi,
Voilà, et pour en faire une ressource, pour en faire une compétence, pour qu'elle devienne vraiment utile.
Est-ce que c'est nécessaire de savoir que l'on est hypersensible à un moment ? Est-ce que cela apporte quelque chose ?
Alors, ça apporte tout d'abord de se dégager souvent du regard peut-être un peu négatif qui est porté sur la sensibilité et de plus percevoir cette hyper-réactivité comme un défaut ou comme une faiblesse et commencer un peu à l'exploiter, à l'explorer. C'est ça qui est important.
Et est-ce qu'on apprivoise facilement cette hypersensibilité ? Alors moi, j'ai mon expérience à moi, mais je sais que pour chaque hypersensible, il y a une histoire particulière. Mais vous, quel est votre avis de thérapeute là-dessus ? Est-ce qu'on l'apprivoise ? Comment doit-on l'apprivoiser, cette hypersensibilité ?
Alors, on ne l'efface pas, hein, tout d'abord. Puisque comme c'est surtout pas une pathologie, ça ne se guérit pas, voilà, on ne l'efface pas. Par contre, on peut apprendre effectivement à l'apprivoiser et à s'en servir, à prendre un peu de recul, mais pas au sens de nier complètement ce qu'on ressent, mais plutôt simplement de se servir de ce qu'on ressent comme une information. Alors, on peut aller vers des techniques soit qui peuvent aider à détendre, par exemple, à maîtriser mieux l'information émotionnelle. Il y a différentes techniques, hein, ça qui existent, de travail des émotions, de gestion émotionnelle. Mais on peut aussi travailler sa perception, affiner sa perception et se décentrer de ce qu'on ressent uniquement pour essayer de se centrer sur ce qu'on peut percevoir dans l'environnement ou sur les informations que ça nous apporte.
Nathalie Clobert, je rappelle que vous êtes psychologue et auteur de l'ouvrage « Dompter son hypersensibilité ». Dans quelques instants, nous accueillerons Julie. Son hypersensibilité se ressent beaucoup dans les moments de bonheur et elle soupçonne son fils d'avoir hérité, comme elle, de l'hypersensibilité.
Et Lily nous écrit sur la page Facebook du groupe, sur le Facebook d'Europe 1, c'est plutôt une belle qualité d'être hypersensible. Pour ma part, je ressens plus fortement les événements autour de moi. J'ai développé une grande intuition qui me guide dans mon quotidien.
Europe 1.
Tout ce que vous traversez, vous le vivez plus intensément que les autres. C'est le cas peut-être de l'un de vos proches, de vos enfants. Venez discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1, appelé le 3921. Comment ne pas se laisser submerger par ces émotions? Vous êtes hypersensible. Vous aussi, venez raconter votre histoire. On a envie de vous entendre. 3921, vous échangez avec Olivier Delacroix.
Et nous accueillons maintenant Julie sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Julie, soyez la bienvenue.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Julie?
Alors, j'ai bientôt 36 ans et je vous appelle du Puy-de-Dôme. Je suis à une vingtaine de kilomètres au sud de Clermont-Ferrand.
D'accord. Alors, vous, vous avez contenu vos émotions toute votre vie, ou presque. Expliquez-moi comment vous les conteniez, ces émotions. Vous sentiez qu'elles étaient trop fortes pour les exprimer ou en parler?
Alors, c'est-à-dire que c'est pas moi qui sentais qu'elles étaient trop fortes, c'était la sensation que j'avais dans la manière dont les gens me les renvoyaient, en fait.
D'accord.
Donc, j'ai toujours eu la sensation d'être soit trop, soit pas assez. J'avais cette sensation de jamais être juste, en fait, dans la façon ni de recevoir, ni d'exprimer.
Ouais.
Et donc, plutôt que de m'intéresser à comment vivre mes émotions, moi, eh ben, je me suis assez vite entraînée, on va dire, à faire ou à réagir comme ce que je pensais comprendre de ce que les autres attendaient. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
À peu près.
Mais donc, j'ai beaucoup vécu en fait, à l'extérieur de moi, en fait.
D'accord.
Cette période-là, qui a duré jusqu'à mes 34 ans. Quoi. Mm-hmm. Ça fait un peu plus d'un an, en fait, que j'ai mis un mot là-dessus. Donc, un petit peu comme Anne-Lise, je crois, hein, sur le premier témoignage, qui disait que c'est un chemin de 40 ans de vie. Bah, moi, c'est pareil, en fait. J'ai mis très, très longtemps à comprendre ce que
ça fait. Et est-ce que c'est lorsque votre enfant est né que vous vous êtes rendu compte que vous étiez une hypersensible, que vous avez réussi à poser ces mots et que vos émotions, eh bien, elles vous guidaient et qu'elles étaient très fortes et que vous l'avez accepté?
Alors, c'est pas à ce moment-là, donc j'ai une fille donc qui est née en 2012, c'est pas à ce moment-là que j'ai compris que j'étais hypersensible, mais c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais un problème avec ça.
D'accord.
C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose, en fait, dans ma vie émotionnelle qui tournait pas rond, quoi.
Ouais.
Et du coup, je comprenais pas, en fait, ce qui m'arrivait, je comprenais pas comment je me connectais à moi, comment je me connectais aux autres. Je me sentais très vite submergée par les choses. Et j'ai écouté votre émission sur le burn-out maternel il y a quelques jours.
C'était la semaine dernière, ouais.
Mm-hmm. Ouais, voilà. Et moi, par exemple, tout ça, ça m'a amené notamment au burn-out.
Ah oui, d'accord.
Exemple.
Vous dites justement que votre maternité a été aussi compliquée que merveilleuse. Est-ce que il est venu là, le burn-out? Parce que, en fait, ça devait, vous deviez aller d'un pôle à l'autre, en fait.
Oui, c'est ça. En fait, j'étais en oscillation permanente parce que comme mes émotions et mes sensations en fait me débordaient complètement, la présence de mes enfants, c'était à la fois quelque chose d'incroyable pour moi et en même temps, c'était une fatigue tellement intense et une disponibilité mentale tellement forte à donner. Mmh. Que moi, avec mon hypersensibilité, si vous voulez, ça me demandait une énergie, en fait, pour me gérer, pour accompagner mes enfants. C'était quelque chose qui me dépassait complètement. Et donc, je me suis retrouvée, en fait, complètement écrasée par ce poids-là. Et puis, bah, ça m'a amenée très, très loin. Hein. J'ai fait ce qu'on appelle une dépression post-partum grave. Mmh. Quoi, hein. Donc,
c'est très difficile, de toute façon, d'être guidé par ces émotions. Et je pense qu'il est très difficile de mettre un mot avant, en tout cas, de devenir au moins un adulte un peu... voilà, un adulte déjà, parce que vous dites que vous avez l'impression que votre fils est hypersensible. Il a hérité ça de vous?
Ben, je sais pas trop. En fait, je pense que mes deux enfants le sont. Je vois ma fille aînée, donc il y a 7 ans, construire sensiblement les mêmes protections que moi, enfant.
Ouais.
Parce que bah, dans son entourage, l'acceptation des émotions de l'autre, elle n'est pas tout à fait acquise, quoi. Donc,
ouais.
J'essaye, moi, du coup, de l'outiller, en fait, un peu comme je peux. Mais c'est beaucoup plus flagrant, par contre, effectivement, chez mon fils qui est un peu plus jeune, donc qui n'est pas encore rentré dans cette forme de contrôle et qui est encore très, très impulsif, en fait, dans la façon dont il manifeste les
Quel
choses.
Âge a-t-il? Quel âge a-t-il?
Marin, il a 4 ans et demi. Il
D'accord.
aura 5 ans, là, bientôt.
Justement, on va se tourner vers Nathalie Clobert. Je rappelle que vous êtes psychologue et auteur de l'ouvrage « Dompter son hypersensibilité ». Certains enfants peuvent-ils être hypersensibles très jeunes? Et est-ce que cette hypersensibilité peut être héréditaire?
Alors, bien sûr que les enfants peuvent être sensibles très jeunes, puisque la plupart du temps, comme c'est un trait de personnalité qui est là presque dès la début, naissance, ouais. On peut le percevoir à une hyper-réactivité. D'abord, surtout aux éléments sensoriels, mais aussi aux éléments émotionnels, puisque les enfants ont tendance à être des éponges hein, émotionnelles, notamment par rapport aux figures d'attachement, hein, aux parents. Et chez les enfants hypersensibles, ces deux éléments-là, c'est-à-dire à la fois une hypersensibilité sensorielle et aussi émotionnelle, sont encore plus manifestes, plus importantes.
D'accord.
Oui, donc effectivement, la plupart du temps, on peut le constater très tôt.
On continuera à en parler dans le reste de cette émission, à savoir si ces enfants, il faut les éduquer et les écouter d'une manière particulière ou différente en tout cas. Merci Julie, beaucoup pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous recevrons William. Aujourd'hui, il a trouvé comment s'écouter, comment vivre mieux son hypersensibilité. Mais cela n'a pas toujours été simple puisqu'il l'a ressenti lorsqu'il était enfant notamment.
Le témoignage de Davenbert, j'espère bien prononcer son pseudo sur Facebook. Avec le temps, je suis devenue complètement asociale car on est moqué, voire abusé. Maintenant, j'en fais une force. Se surpasser dans la souffrance peut être très gratifiant et contrairement aux autres, nous connaissons nos faiblesses et pouvons réaliser nos rêves.
Europe 1.
Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Julie qu'on a entendu de Davenbert, vous témoignez au 3921. Vous êtes atteint d'hypersensibilité. Comment ça se passe au quotidien? Vous pouvez aussi nous écrire hein, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
N'ayez pas peur, on ne va pas vous faire de mal. Ça dépend ce que vous êtes plus heureuse.
Ça dépend
de quoi?
Ça dépend sur quoi?
Êtes-vous heureux? Cette question dans la chanson de Vincent Delerme. Êtes-vous heureux en étant souvent submergé par vos émotions? Vous êtes hypersensible? Vous discutez avec Olivier Delacroix sur Europe 1 au 39-21.
Et nous sommes maintenant en ligne avec William. Bonjour William, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 32 ans, de Belle-Île-en-Mer, Morbihan, Belle-Île.
La chance! La chance d'être à Belle-Île. William, vous êtes aussi donc hypersensible. Être un jeune garçon, un enfant d'abord, un jeune garçon puis un homme hypersensible, comment est-ce que vous l'avez vécu?
Alors, jeune garçon, enfant, superbe, parce que j'étais dans un contexte familial très, très favorable, avec une famille nombreuse, la nature, beaucoup de... un contexte bien bienveillant, beaucoup d'amour qui m'ont permis d'être très 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 heureux enfant.
Ouais.
Mais ensuite, dès le collège, alors là, par contre, c'était
dur.
C'était très dur et c'était 10 années d'introversion, de mal-être et de.
Et pourquoi en fait? À cause des autres, à cause des remarques des autres.
La remarque, la violence, la violence, la pression, la société. Les pressions, voilà, de tous les codes sociaux, enfin le côté
C'est-à-dire qu'en fait, pour vous aider un petit peu, hein, j'ai l'impression que quand on est hypersensible et qu'on le tait en plus, parce qu'il y a un moment où quand on le tait, ça n'est pas naturel, pour ceux qui ne le sont pas, on est une proie idéale. C'est un peu l'impression que m'ont donné tous les hypersensibles avec qui j'ai échangé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, on est une proie. Alors, chien, c'est toi.
Il y a un petit chien à côté. C'est.
J'ai pris un petit chiot et du coup. Non mais oui, on est des proies malgré nous et malgré les autres parce que finalement c'est pas conscient. Peut-être de pas se connaître, de pas le savoir et de pas respecter ses limites. Alors oui, du coup, on est. Moi, j'aime bien dire souvent, on est victime d'abus de gentillesse un peu.
Ouais.
On a du mal à dire non, à s'affirmer et donc oui, quelque part, oui, on est des proies, mais bon, c'est. Moi, je pense que c'est pas conscient tout ça. Il y a pas de.
Alors, avant, vous étiez dans le commerce à Paris, hein, et ensuite, vous avez fait un burn-out, en fait. Dans quel domaine étiez-vous?
J'étais dans une trajectoire tout à fait classique, bac, école de commerce, et
ouais.
C'est à ce moment-là où ça commençait à... J'ai atteint mes limites, et à force de prendre sur moi, à un moment donné, ça, dans ce contexte commerce de pression,
De pression, pression ouais.
L'argent, enfin quelque chose de loin de l'humain, enfin à mon sens, de ma sensibilité en tout cas.
Oui.
Et ben du coup là ça, j'ai fait un burn-out, puis dépression, et puis là ça commençait un peu à un long cheminement. Puis j'ai travaillé dans l'animation avec les enfants, mais là aussi c'était pas simple jusqu'à un moment donné où j'ai vraiment pris conscience de ma sensibilité, de ma fragilité dans ces environnements-là, et j'ai fait des choix de vie qui sont de quitter Paris, de quitter le système professionnel, on va dire classique,
ouais.
Et de choisir aussi plus mes relations, mes activités, me tourner vers l'art, à des choses qui pour canaliser un peu ma sensibilité
et qui vous épanouissait au final.
C'est du coup l'écriture, et puis cette écriture en blog, et celle de ce blog des rencontres, et puis cette association que j'ai créée, Sonic Hypersensible, qui aussi a beaucoup aidé.
Alors justement, on parlera dans la dernière partie de cette émission de cette association, mais vous avez quitté Paris aussi, hein, pour vous rendre à Belle-Île-en-Mer, où vous habitez aujourd'hui. Ça vous a fait du bien, le regard des gens là-bas, parce que vous avez quitté l'agitation parisienne, hein, au milieu du commerce. Il est certain que les valeurs véhiculées dans ce domaine professionnel ne vont pas spécialement avec l'hypersensibilité, bien que il doit y avoir, puisqu'il y a 15 à 20% de Français qui sont touchés. Est-ce que là-bas, à Belle-Île-en-Mer, vous avez trouvé que les choses s'apaisaient aussi au niveau de votre entourage ?
Au-delà même des valeurs, juste l'agitation, c'est-à-dire que moi, la ville, je serais sensible au bruit, l'agitation, tout que moi, je ne pouvais plus supporter, quoi. J'ai besoin de calme, de nature, et c'est sûr que dans un endroit à taille plus humaine,
ouais.
Je me sens beaucoup mieux. Ouais.
Mmh. Alors, dans quelques instants, justement, nous parlerons de cette écriture qui vous a mené à ce blog et à la création de cette association. Et nous en parlerons aussi avec Nathalie Clobert, psychologue et auteure de l'ouvrage « Dompter son hypersensibilité », avec qui vous pourrez échanger dans la dernière partie de cette émission.
Et un extrait du message de Mélodie Nelson sur Facebook. « Rions, pleurons, mettons-nous en colère, montrons l'exemple aux gens fades qui doivent bien s'ennuyer. Je suis bien contente que dans l'école de mes enfants, les enseignants se forment sur le sujet des émotions. »
Europe 1.
Vous avez la capacité de ressentir les choses plus vivement que les autres. Comment ça se traduit dans votre quotidien? Pour échanger avec Olivier Delacroix, vous composez le 3921. Vous êtes hypersensible, vous êtes avec Olivier Delacroix. Comment bien vivre cette hypersensibilité?
Et pour conclure cette émission, nous sommes toujours avec William, qui nous appelle de Belle-Île-en-Mer, et Nathalie Clobert, psychologue et auteure de l'ouvrage « Dompter son hypersensibilité ». William, vous nous expliquez qu'à force de vous être lancé dans l'écriture, avoir rejoint cette belle région qui est Belle-Île-en-Mer, était née une association à destination des hypersensibles. Quel est son but et on devine son but, mais beaucoup de monde vous écrit, vous échangez beaucoup.
L'objet de l'association, c'est créer du lien entre hypersensibles afin de rompre l'isolement.
Oui.
Et on crée des espaces d'échange, en fait, qu'on appelle des rencontres, dans des cafés ou dans des parcs, ou tout simplement en petits groupes. Des personnes aussi peuvent venir échanger, dans une ambiance de bienveillante, puis voilà, avec beaucoup d'écoute, de non-jugement, voilà, qui permet de se livrer, d'échanger sur des sujets, des choses qu'on ne peut pas tellement dire ailleurs, en fait.
Ouais, ouais, ouais. Je me tourne vers vous, Nathalie Clobert. On écoute avec attention le témoignage de William. Tout quitter, comme ça, d'une manière assez radicale, hein, mais tout quitter pour vivre mieux, hein, c'est ce qu'on a entendu dans le témoignage de William. Est-ce que c'est une solution que vous avez été amené à conseiller à certaines des personnes que vous voyez?
Alors, ça peut être une solution pour les personnes en fonction de leur situation, en effet. Alors souvent, c'est une solution qu'elles trouvent elles-mêmes.
Ouais.
Je leur conseille pas directement, ou en tout cas, je ne prends pas des décisions ou des conseils à la place des personnes, mais souvent l'aboutissement, effectivement, d'un cheminement ensemble. Et peu à peu, la personne, si elle mène une vie qui est n'est pas du tout en accord avec ses valeurs et avec sa sensibilité peut être amenée effectivement à changer radicalement, parce qu'au fur et à mesure qu'elle se connaît, elle connaît mieux ses besoins, elle connaît mieux sa personnalité, elle est plus affirmée dans ses valeurs, elle se fait davantage confiance, et à un moment donné, effectivement, il y a un saut qui se produit qui va aller vers une décision en accord avec soi, avec ses valeurs, avec ce qu'on a envie, et donc un changement parfois radical de vie, effectivement. Mais comme l'avait exposé également Agnès dans le premier témoignage, ses décisions professionnelles. Alors, ce qui est très important aussi, ce que dit William, et je voulais un petit peu souligner ça également avec cette association, que je n'ai pas le bonheur de connaître, en tout cas pour le moment.
Comment s'appelle-t-elle, comment s'appelle-t-elle, William, votre association?
L'association des hypersensibles.
D'accord, très bien. Donc elle est assez facile à trouver.
Allez-y. D'accord, oui, en effet. Ouais. C'est le besoin de partage. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est un petit peu montré du doigt ou quand on est un peu dévalorisé par rapport à sa sensibilité, à la manière dont on ressent les choses, c'est important de trouver des gens semblables. Alors, de ne pas s'enfermer qu'avec des personnes semblables, mais de trouver des gens semblables, des personnes qui soient sensibles, pour pouvoir partager avec elles des échanges riches, émouvants, profonds, des choses effectivement qui attraient à une expérience commune, à une manière de voir le monde, de le vivre, qui soit pareil, à la manière dont il résonne en nous. Et ça, c'est vraiment essentiel, très important, pour pouvoir s'épanouir pleinement, avec également toutes ces dimensions de mise au jour de la sensibilité grâce à des activités artistiques ou à des choses qui vont épanouir vraiment la sensibilité et l'exprimer, lui laisser libre cours.
Comme dans les groupes de parole où en fait on peut échanger des idées et des idées communes. Merci beaucoup Nathalie Clobert pour vos éclairages cet après-midi. Merci aussi à William, merci à Anne-Lise et à Julie de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. L'hypersensibilité est un trait de caractère avec lequel il faut composer. Si au début les émotions peuvent être vécues comme un tourbillon, avec les années et l'expérience, il est possible de mieux les vivre. S'adapter, s'écouter permettent de faire face en société. N'hésitez pas à vous documenter sur la question et à consulter si vous trouvez votre hypersensibilité trop envahissante. Et aller sur Internet pour trouver l'association de William et pouvoir échanger sur Internet. Déjà, on peut de toute façon en parler.
Bien sûr. Car échanger peut vous faire du bien, donc n'hésitez pas à le faire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, sur Instagram Olivier Delacroix officiel. Et puis, si vous le souhaitez, venez discuter avec Sophie Peters le soir. Vous vous confiez sur Europe 1 lors de la libre antenne entre 22h30 et 1h du matin.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble du divorce, une issue qu'ont connue 128 000 couples en 2016. Alors, peut-on le réussir, ce divorce, si vous avez vécu un divorce houleux, difficile, si au contraire, il a été serein, si vous êtes un enfant de divorcé et que vous voulez nous raconter votre histoire, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire.
Oui, et n'hésitez pas aussi à réagir sur le groupe de l'émission via la page Facebook d'Europe 1. On vous l'a déjà dit, vous avez été nombreux aujourd'hui à nous écrire.
Très nombreux, oui.
On n'a pas pu lire tous vos messages, hélas, mais à l'antenne. On les lit bien sûr hors antenne, donc n'hésitez pas, faites-nous confiance. Et puis, pour tous les sujets de la semaine, vous pouvez déjà nous écrire sur Twitter aussi, hashtag Europe 1.
Ma chère Amblin, j'ai été ravi de passer cette heure avec vous.
Moi aussi.
On se retrouve demain pour parler du divorce à partir de 15h.